France Inter.
Et c'est la originale qui a eu la cadeau boudadier avec Camille là-bas.
Bonjour.
Avec Emma, bonjour, Bruno Pecky, Jean-Guy Bassureau, Abdelah, Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et nos
coucou
invités, Reda Kateb et Sarah Giraudot.
Bonjour.
Que personne n'est allé chercher,
bonjour, je crois.
Écoute, ils arrivent. Ils vont t'ouvrir. Je les ai vus dans le couloir.
Mais, voilà. Non, mais ils sont là, mais d'un coup, je me dis, mais est-ce que quelqu'un leur a dit que c'est l'émission avait commencé au
lendemain?
Installez-vous. On va faire un tour de table, parce que nous allons parler de cette histoire vraie, incarnée par Reda Kateb et Sarah Giraudot. Le film s'appelle l'affaire Boyarski, ou Bojarski, mais Boyarski à la polonaise. Et cette histoire raconte le talent de ce monsieur Reda. Comment on le résume, Reda, ce monsieur? Bonjour. On le résume comme étant un inventeur ou comme étant un faussaire?
Il est difficile à résumer, déjà. Est-ce qu'on doit absolument le résumer?
Oui, parce que j'ai besoin de que vous choisissiez l'une des deux catégories, entre guillemets, pour faire le tour de table.
Ah oui, d'accord. Eh ben, disons un inventeur. Alors.
Un inventeur. Donc, on va parler du faussaire. Est-ce que vous avez... Non, parce que si on fait un tour de table, savoir si vous avez déjà inventé un truc ici, je vous raconte pas comment le tour de table va être très rapide.
Est-ce que vous avez déjà... La mauvaise foi, peut-être.
Est-ce que vous avez déjà... fait défaut.
Ah bah oui.
des excuses.
Ouais, genre,
des excuses.
Bruno Pecky.
Tu loupes des cours et t'écris un mot de tes parents.
Une
fausse signature.
Chez Nagui, il y a du niveau. Quoi. Il a inventé des faux parents.
Okay. Faux mot d'excuse signé par les parents.
Bien okay.
Emma Beaujean.
Ouais, moi, ma maman m'a aidé à faire une fausse carte d'identité.
Non.
Juste une photocopie. Quoi. Ça se trouve, c'est hyper illégal. Ouais, je crois.
Est-ce qu'il y a une inscription
maintenant?
C'était la semaine dernière. Non, parce que c'était pour entrer au conservatoire et j'avais 14 ans et il fallait avoir au moins 15 ans. Et du coup, voilà.
Ok.
Voilà. C'est
d'accord.
Cool.
Bon, c'est, non, ça va, c'est ça super. Va, ça va.
Moi, j'ai fait plus ridicule comme vous.
Ah ouais.
J'ai truqué ma carte de scout, louveteau, machin, cato. Je l'ai truqué pour pouvoir aller voir des films interdits aux moins de 18 ans.
Mais c'est mignon.
Carte d'identité scolaire.
Si tu veux, j'ai gratté le truc, mais ça se voyait tellement. Puis en plus, j'avais mis une fausse date. J'avais rajouté 10 ans, si tu veux, pas crédible. Et la dame à la caisse m'a regardé, elle me fait. Ouais. Genre, j'avais 26 ans au lieu de 14.
Et toujours scout en plus.
Toujours scout.
J'étais mis avec le bonnet et le foulard. Camille, t'as déjà truqué?
C'est pas pour la carte de scout. Hein. C'est la première fois que j'entends quelqu'un aller au
scout. On avait une carte.
C'est niche un peu.
Il y en a plus beaucoup, je crois.
Il y a aussi celle des castors juniors.
On était obligé de la présenter au curé pour qu'il sache si on était mineur ou pas.
Camille. Non, moi c'est beaucoup plus banal que ça. J'ai déjà fait un faux dossier pour visiter un appart de 4 mètres carrés à Paris.
Oui, évidemment. Évidemment, avec vue sur la Tour Eiffel.
J'ai fait croire que j'étais en CDI depuis 16 ans pour accéder à cette chambre de bonne au 8e sur l'ascenseur.
L'année dernière, j'ai gagné 1 million d'euros.
Tant
pis. Moi, je fais une fausse carrière depuis toujours. Quand on me demande mon métier, je ne sais jamais quoi répondre. Voilà.
Au-delà.
Moi, c'est niveau 0. J'ai changé la date sur l'année, tu sais, pour encaisser des chèques parce qu'au bout d'un an, c'était plus valable.
Et ah oui, c'est vrai.
J'ai transformé le 1 en 2.
Il est passé de 1900 à 2900.
J'ai pas changé le bon nombre.
J'ai essayé de truquer mal, mais j'ai truqué.
Quand même.
Et donc, Daniel, toi aussi, les mots.
Oui, fausse carte, ouais. Non, fausse carte d'identité scolaire pour aller voir des films interdits au moins de 13 ans.
Ça. Les dessins animés. Sarah, Giraudot, vous avez déjà truqué quelque chose?
Moi, je m'entraînais pour recopier parfaitement la signature de ma mère, mais ça ne servait strictement à rien.
Parce qu'elle ne sait pas
écrire.
Je
n'avais absolument pas à faire du faux. Non, c'est parce qu'en fait, elle s'en foutait, elle re-signait tout, elle regardait les. Si je lui montrais pas, j'aurais pu ne pas aller à l'école pendant 2
d'accord.
ans, elle s'en serait pas rendue compte. Donc j'avais pas l'occasion de faire du faux.
C'est fort de dire cette phrase sans
mais
verser une larme. Ça peut toujours servir.
Je sais la faire parfaitement.
Reda Kateb, à part pour le film, évidemment, est-ce que vous avez déjà usé d'un talent de faussaire?
Alors, le talent, je sais pas, mais. Alors, il doit y avoir un ou deux faux sur lesquels il n'y a pas prescription, du coup, je n'en parlerai pas.
C'est pire! C'est pire!
Pour le reste, je sais pas si c'est vraiment un faux, mais je me souviens d'un exposé de musique au collège où je sais pas ce qui m'a pris. J'avais pas eu le temps de finir et j'ai enlevé la page du dictionnaire des auteurs à la bibliothèque du collège que j'ai collé dans mon, dans mon exposé
le
pour
faux
finir.
Discret.
Et ça m'a causé beaucoup de problèmes.
Si je veux, la preuve du le document étant collé.
C'était
le,
pas
le
un plus, talent, en tout
le,
cas.
Ouais. Le plus beau faux que j'ai pu croiser, ça a été quelqu'un qui est venu pour un job au sein de la boîte de prod et qui me tend de ma boîte de prod et qui me tend un CV en me disant voilà, j'ai travaillé là. Et dans le CV, il y a marqué j'ai travaillé pendant 4 ans avec Nagui en faisant des émissions. Alors que le mec, je l'avais jamais vu de ma life.
C'est peut-être ta mémoire.
Pris en flag. Bon, et justement, pris en flag, c'est un peu ce qui va arriver. C'est une histoire vraie qui se situe entre la. Bah si,
Christian. Bah, oui. Bah, raconte pas la fin.
Mais non, je dis c'est une histoire vraie d'un faussaire qui s'appelle Bozarski. Je raconte pas tout. Mais surtout, j'ignorais totalement. Est-ce que vous la connaissiez cette histoire avant que Jean-Paul Salomé vous la raconte, Reda?
Non. On fait non de la tête. On est à la radio. Alors
non. Mais c'est fou qu'il soit pas plus entre guillemets plus connu parce que c'est il a quand même pendant des décennies défié la Banque de France.
Pendant une vingtaine d'années à peu près. Et c'est vrai que lorsque Jean-Paul Salomé m'a raconté l'histoire de cet homme, j'étais moi-même surpris qu'il n'y ait pas eu déjà des films, des romans, enfin qu'on connaisse pas cette histoire. En réalité, on l'a connu un peu de son vivant. C'est-à-dire que quand il a été arrêté et tout ça, il y a eu à un moment un article dans Paris Match.
Là, tu dis rien, Daniel. Tu dis rien. C'est-à-dire le mec qui balance la fin du film.
C'est pas. Enfin, en même temps, c'est sa vie. Donc un épisode d'Affaires Sensibles qui raconte aussi.
Moi, je vous écoute. Ouais.
Non, mais là-dessus, ouais, on va pas jouer de suspense. En tout cas, il y a eu un article. Okay. Désolé.
Dans Paris Match, comme quoi il s'est fait donc sur son arrestation et sur la vente.
Oui, et puis c'est cet article de Paris Match qui du coup a posé ce nom de Cézanne de la fausse monnaie.
Voilà. Qui est dit dans le film à la fin du film.
Ouais, et qui est resté finalement pour lui, voilà, une espèce de plus grand faussaire de l'histoire. Après, il y a quelque chose d'un peu paradoxal chez la Banque de France qui était à la fois fascinée par lui, mais qui avait pas non plus envie de continuer de nourrir cette histoire et qui a tout fait aussi à un moment pour qu'on ne le connaisse plus. Quoi.
Alors la fascination, elle vient surtout du rapport qu'il y a entre le policier qui lui court après. C'est assez fréquent au cinéma. Cette manière de raconter des histoires avec ce binôme, le gentil et le méchant qui se courent après mais qui se respectent et qui s'admirent aussi et qui ont un rapport assez particulier entre eux. C'est Bastien Bouillon, qui interprète le commissaire en l'occurrence qui court après Reda Kateb et puis Sarah Giraudeau, l'épouse, qui elle non plus n'était pas forcément totalement au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Elle a des gros doutes,
ses absences. Au bout de pas mal de temps quand même, mais non. Au départ, apparemment, elle n'était absolument pas au courant, et je pense qu'après,
parce que c'est un inventeur,
dans son secret.
C'est un inventeur génial, et il lui montre ses inventions, et donc elle l'admire pour ça, pour son intelligence.
Oui, et puis à un moment donné, je pense qu'il y a une telle confiance entre eux, et puis il y a une vie de famille qui se met en. Que quelque part, elle lui fait confiance, et c'est vrai.
Mais
elle
le répète souvent, cette phrase, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi.
Ouais, elle le répète très souvent dans le film.
Le film sort ce 14 janvier, l'affaire Bozarski. On en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord, voici Hold de la fan de Sarah Giraudeau et Reda Kateb.
Je suis fan de Sarah Giraudeau, une vraie légende, tout le monde le sait dans nos bureaux. Elle a eu un César et deux Molières, franchement c'est beau. En ex-Yougoslavie, tout le monde dit que Sarah elle est beau. Je suis fan de Reda Kateb, je suis un peu enrubé, qu'importe Reda, je t'aime. Vous avez joué Django et puis dans Un Prophète. Du coup dans Star Wars, je pense que c'est vous qui jouez Django Fett. Et vous êtes là ensemble pour l'affaire Bozarski. Ça parle d'un vrai faussaire dans une double vie. Mais pourquoi on l'appelle le Cézanne des billets alors qu'il peint pas des Cézannes mais des monnaies? Yes! Ça devient une chronique intellectuelle. Ouais, je suis fan de vous, et pour ce film, merci. Mais ça ne dit pas tout de la vie de Jan Bojarski. En sortant de prison, il est devenu cuistot. Il a lancé sa propre marque de resto.
Bon. Oh, s'il vous plaît, je vais vous demander de mettre les mains bien sur votre plateau, comme ça, et vous mettre dans la queue derrière les autres. Pas de stationnement pour les frites. Merci. On reste tous calmes.
Bozarski,
chez Flunch.
Non.
Bojarski chez Flunch. Faucisson, faux filet, falsifie. On est loin de chez Fauchon. Tant pis, bonjour. Bojarski chez Flunch.
Oh, reste bien, reste bien.
Bojarski chez Flunch. C'est le même genre d'activité. Le projet, c'est des gobillets. Si Nagui et Leila se sentent mal, c'est de la fausse béchamel, c'est normal. Bojarski faisait des faux billets et des faux filets. Je suis fan du film en parlant de double vie. Daniel Morin fait rien le jour et puis il dort la nuit. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Bon, déjà, nos plus plates excuses, évidemment, Reda et Sarah, pour ce qui vient de se passer. Des dates peut-être annoncées ?
Non.
Merci.
Mais j'ai pas envie. Si, tu es sur scène quand ?
Le 1er avril au Folies Bergères.
Évidemment, évidemment. On a fait le tour de table, et pardon, j'ai complètement oublié de te demander, Leïla, si toi-même tu avais eu des faux, fait des faux, abusé. Ah, bah ouais, je sais.
Des faux.
C'est genre... surprenant, alors que t'étais là quand on a fait le
oui, mais c'est vrai que j'ai des absences. J'ai pas osé
travailler.
Non, des faux, des, genre des signatures, des choses comme ça. Ça, ça a été ça. Mais non, moi, ça, je pouvais pas me permettre. Mais c'était beaucoup trop risqué.
Tu risquais la peine de mort.
Ok, t'as même pas fait un faux CV, t'as même pas fait un faux chèque, un faux billet.
Non, ça va pas.
Un truc un peu plus. Un peu
rock'n'roll. Non, faux, non, rien.
Fausse déclaration d'amour.
Des fausses cartes de visite.
Ah d'accord.
Ouais. Bah, mais pour rigoler quoi.
Non, mais le week-end, un faux passeport français,
non.
Un truc.
Le week-end tu fais le week-end. Je suis content qu'on en parle.
Parce que ça commence.
Une fausse carte de scout peut-être.
Voilà, c'est ça. Ça commence. Ça vous a choqué si ça.
Ah ouais, ça, je m'en remets pas.
Ça commençait comme ça, Reda Kateb. C'est-à-dire que c'est l'histoire de ce monsieur Bojarski qui quitte la Pologne, qui fuit pendant la Seconde Guerre mondiale, commence à être connu, reconnu, en tout cas à fréquenter les milieux de la contrebande ou du moins des faux papiers. Il commence d'abord son talent de bon dessinateur, c'est ça, et de faussaire. C'est surtout un bon dessinateur. C'est à partir de faux papiers pour sauver des personnes de cette montée du nazisme.
Oui. Il avait fait des faux papiers d'identité pour des juifs qui étaient recherchés par les nazis. Et puis ensuite, son talent a été repéré. Il a été repéré par
des bandits.
Par des bandits. Qui se sont dit qu'ils allaient du coup s'adjoindre à ses services et son talent, et puis petit à petit, il est devenu un artisan plus indépendant, je dirais.
On a, non mais,
absolument.
Le sentiment que l'on a, c'est que, alors celle qui croit à Sarah Giraudot, son épouse, croit en son talent, à son intelligence et dans le dépôt de ses brevets. C'est même elle carrément qui fait la queue enceinte pour aller déposer ses brevets.
Il a du génie en plus, il est complètement génial ce mec.
Oui, mais comme son génie n'est pas accepté, n'est pas reconnu, voire spoilé par certains en disant l'invention par exemple du stylo à billes, c'est clairement lui qui l'a eu cette invention.
Oui, c'était un ingénieur inventeur génial qui venait de Pologne et qui dans cette France d'après-guerre des années 50 ne trouvait pas vraiment de moyen de déployer son talent d'inventeur. Il a inventé le stylo à billes, du coup
par
dérivé voilà le déodorant à billes avec le même système, les machines à café à capsules
unique,
enfin beaucoup de choses qu'on utilise nous dans notre quotidien et qui si ces inventions
le déodorant pas tout le monde je peux vous donner
les sièges qu'on a là qui montent qui descendent qui tournent
qui se bloquent qui montent pas totalement et c'est finalement parce qu'il n'est pas reconnu, accepté par la société qu'il va...
Il y a plusieurs raisons. C'est aussi quelqu'un qui avait du mal à se vendre, quoi, donc qui n'était pas doué pour renouveler ses brevets, qui finalement était...
Bon, en même temps, on ne l'aide pas trop quand il est au bureau, comme ça on lui fait, il y a plein de fautes d'orthographe, là, non, c'est pas du tout.
C'est un double mouvement dans lequel il s'est confronté au racisme. En effet, être polonais dans la France des années 50, ça ressemble à être un arabe dans la France de 2026. Voilà.
Ça dure.
Et en même temps, c'était voilà un homme qui aussi avait cette chose d'être passionné par ce qu'il faisait, mais qui n'était pas, doué pour le marketing, qui n'avait pas de DA d'artiste ou d'inventeur.
elle l'observe, elle l'aime au point où elle peut-être comprend beaucoup de choses, mais par amour, dans un premier temps, en tout cas, elle va...
Bah après, il y a toute une partie de lui qu'elle comprend pas non plus. Quand on a... Je pense que quand tu vis avec un inventeur et qu'il invente des choses assez incroyables et des objets, c'est-à-dire qu'il a un monde à lui... Et je pense qu'elle aime son mystère aussi, donc c'est vrai qu'il y a une vraie rencontre très très forte entre ces deux personnes, une confiance absolue qui se met en place tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas un couple qui se cherche, où il y a un amour qui se met en place, puis qui se délite, puis qui se remet en place. Ils prennent pas de temps pour s'accrocher l'un à l'autre, en fait, et même ces deux natures très différentes. Et donc, en fait, quelque part, cette confiance-là absolue, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que elle va laisser vivre cette partie de lui qui l'étonne, qu'elle admire, mais en même temps qui est remplie de mystère. Et c'est pour ça que je pense qu'avec le temps, le fait qu'il se replie de plus en plus sur lui au moment où il a l'air d'y arriver, elle va pas chercher tous les tenants et les aboutissants, elle va pas chercher toutes les réponses, parce qu'elle a l'impression en tout cas de le connaître avec ce mystère-là, cette bulle-là qui est à lui. Quoi.
Son invention et son intelligence font qu'il va non seulement redessiner les plaques pour fabriquer les billets, mais qu'il va trouver le moyen à partir de papier tabac et d'aspirine, il va trouver le moyen de fabriquer son propre papier, pardon,
et de pommes de terre, tout un tas d'éléments qui pour chimique. Fabriquer le
voilà.
papier.
D'ailleurs, chimique. À la fin du film, on voit des archives. C'est lui qu'on voit en train de fabriquer.
Absolument. Ouais. Il était en prison. Il avait été arrêté pour ses faux billets, mais la police ne croyait pas qu'il faisait ça seul.
Ok.
Donc, il leur a fait une démo et il sortait de sa cellule pour montrer du coup aux policiers comment est-ce qu'il fabriquait ces choses-là. Il avait fabriqué ses machines également, qui sont des récups d'un moteur de machine à laver, d'une pompe à vélo, enfin, une chose d'inventeur fou, quoi.
Non, mais c'est là où il est admirable, mais en fait, il en vient à être hors la loi parce que finalement, la société le pousse sur ce chemin-là en disant, bah non, on veut pas de vous dans la ligne droite, dans la route propre, entre guillemets. Et le gars dit, bon, bah ok, très bien, il faut bien que je bouffe.
Mais il a fait du faux par défaut, je pense.
Voilà, c'est une très belle formule.
Et pas pour l'argent.
Belle formule.
Et bizarrement, pas pour l'argent, on sent pas qu'il a pas un rythme de vie fou, en fait.
Ça, c'est pour une indépendance et la dignité aussi, à un moment donné, mais c'est vrai que c'est pas pour... Comme dit Bastien à la fin.
C'est la phrase est dite dans le film, il ne fait pas ça pour l'argent, c'est Bastien Bouillon, je crois, qui le dit dans la bande-annonce du film. Mais il ne va pas dépenser énormément d'argent pour surtout ne pas se faire repérer. Et c'est là son intelligence, c'est qu'il a des règles, il a trois règles bien précises sur la manière d'écouler ses faux billets.
Oui,
et toute une carte de France qu'il va parcourir.
Absolument. Du coup, il passait la moitié de sa vie dans son atelier à faire ses faux billets. Et l'autre moitié, comme un voyageur de commerce seul, à parcourir les routes de France avec sa voiture, sa mallette, à manger tout seul dans des petits restaurants.
Pour écouler les billets, pour acheter le papier tabac sans se faire repérer non plus. Et c'est là où la confiance du couple est assez remarquable. C'est-à-dire qu'elle le laisse partir sans se poser la question.
Je me pose vraiment toujours des questions, de me dire, est-ce que cette femme n'a pas menti? Est-ce qu'elle ne savait pas? Mais je pense que non. Je pense que sincèrement,
elle l'a trompé, ça l'a arrangé son absence aussi quelque part.
Non. Je pense qu'elle l'a trompé par défaut aussi. Non, mais je pense qu'il y a aussi ce côté commercial d'aller se vendre, d'aller présenter les. Donc tout ça est rentré dans un rythme de vie et dans quelque chose qui paraissait à peu près logique.
En plus, son métier, tout le monde le dit, personne ne sait le décrire, donc personne ne sait à quoi ressemble vraiment son métier, donc ça laisse une possible.
Oui, et puis si tu commences à vendre, t'es obligé de voyager, de bouger, d'aller présenter les. Donc il y a quelque chose que t'es assez. Je pense qu'il
a organisé
sa chose de manière tout à fait.
Le film est formidablement interprété par vous deux, Reda Kateb, Sarah Giraudeau, Bastien Bouillon également, Pierre Lotin, avec cet accent polonais, mais il a du sang russe qui coule dans ses veines. Il a exploité ce côté slave.
Ouais. Il a fait, je crois, des essais dans lesquels il a fait donc il a parlé un peu russe et l'accent russe. Puis il y avait une coach polonaise qui a tout de suite rassuré Jean-Paul Salomé en disant son accent est super. Et tout.
Et vous l'avez au début d'ailleurs du film. film un tout petit peu l'accent. Il le perd au fur et à mesure. Non, mais c'est cohérent de dire aussi qu'il le perd, lui, pour cherchant l'intégration, alors que son ami, lui, il est encore dans le bras de fer. Il est
oui,
pas
ça raconte
dans...
quelque ouais, chose. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bojarski voulait aussi que ses enfants aient plus de chance que celle qu'il a eue, lui. C'est aussi une histoire de l'immigration qu'on peut ramener à beaucoup d'immigration. Mais c'est vrai que...
Non, il a pas l'accent parce qu'il veut une forme d'intégration, même sa tenue vestimentaire, sa façon de vouloir coller en fait aux citoyens lambda en fait. Il veut passer inaperçu tout en faisant reconnaître son génie. C'est ce qui le pousse aussi à faire cette rencontre avec ce flic. En fait.
Et c'est peut-être là aussi le talent d'Achille de cet inventeur, être connu et reconnu parce qu'un inventeur, ce qu'il veut aussi, c'est qu'on admire son talent, ses connaissances et ses dons.
Ou qu'il aide les gens avec ses inventions.
Laissons quand même un tout petit peu de suspense. Daniel a raison, on va pas tout spoiler.
Non.
Est-ce que c'est
signature.
Est-ce que c'est au sein du couple qu'il va y avoir un problème? Est-ce que c'est au sein des fréquentations? Est-ce que c'est de la volonté d'être connu et reconnu qu'il va brûler ses ailes? En tout cas, le film est extrêmement passionnant. Histoire vraie, encore une fois, ce formidable inventeur, que ce soit du stylo à billes, du déodorant, de la machine à café à capsule, enfin bref, un gars génial qui, avec ses mains, va réussir à faire tout seul ce que normalement il faudrait être une demi-douzaine à faire, parce qu'il ne veut pas que le sang coule, il ne veut pas tuer, il ne veut pas blesser, il ne veut pas spécialement voler, il veut être juste malin, intelligent et
tous les talents, parce qu'il y a aussi de la gravure.
Il est admirable. Il est admirable. Et puis il cherche, il teste. Il y a un côté chimiste comme ça, d'essayer dans tous les sens. Le film sort ce 14 janvier, l'affaire Bojarski, histoire vraie. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, c'est vrai. Parler d'un faussaire et d'enchaîner avec un Suisse, je trouve ça beau. Voici Bruno Pecchi. Pas fait le film comme ça, vous.
Ah, mais alors là.
Plus que vous êtes.
Ah, ouais, j'aurais fait tout différemment. Et pourtant, quand Bojarski commence à faire des faux billets, il est pas français, pas riche, et passe son temps à travailler seul sans avoir la reconnaissance que son talent mérite. C'est exactement ma vie en ce moment, quoi, je veux dire. Pour moi, la différence de Bojarski, j'ai pas fui la Pologne en pleine guerre mondiale pour échapper aux nazis, mais j'ai fui la Suisse en pleine période d'inflation avec un coût de la vie exorbitant. On est sur un niveau d'oppression comparable. Après, pas sûr que je sois un bon faux monnayeur. Je suis pas très manuel, rien qu'avec un stylo, je suis nul, tellement que parfois, quand je signe des documents, j'ai l'impression de faire une contrefaçon de ma propre signature. J'écris tellement mal qu'il y a pas longtemps, je me suis demandé si en fait j'étais pas gaucher et qu'on me l'avait jamais dit. Ma peau s'alerte encore pire avec la gauche. Et en vrai, ça me servait à rien d'être fou monnayeur parce que j'ai déjà assez de cash. Alors, même si je suis fauché, mais c'est juste qu'en tant qu'humoriste, on est souvent payé au chapeau. Donc, je me retrouve avec quelques billets de 10 euros qui traînent dans l'appartement. Ma copine croit que je suis un dealer nul en com. Je donne l'impression de l'illégalité sans l'opulence qui va avec, quoi. C'est du lose-lose. Ah oui, pardon. Il faut que j'explique à Nagui ce qu'est un billet de 10 euros. Alors, c'est ce que vous utilisez en fait pour allumer un feu dans votre château quand il y a plus de billets de 500. Alors, faites pas semblant, Nagui. J'ai entendu la commission d'enquête de l'audiovisuel public. Je sais que vous êtes l'homme le plus riche au monde.
Voilà, merci.
Mais revenons à une histoire vraie. C'est vraiment dommage que je puisse pas devenir faux monnayeur parce que faire de l'argent en copiant, c'est un truc que beaucoup d'humoristes savent faire. Mais bon, j'ai pas le génie de Bojarski. Hein. Oui, à ce niveau-là, on peut appeler ça clairement du génie. Ouais. Le mec fait des faux billets à base de papier pour cigarettes OCB.
C'est ça.
Moi, tu me donnes du papier à rouler, du tabac et un filtre, j'arrive même pas à te faire une clope. Alors imagine faire des faux billets, quoi. Après, il suffit pas d'avoir du papier à rouler. Hein. Faut aussi avoir le savoir-faire de Bojarski. Il a fait tellement du bon travail qu'après sa mort, ses faux billets ont été vendus aux enchères plusieurs milliers d'euros. Il y a un de ses faux billets de 100 qui s'est vendu 7000 euros. Voilà, maintenant quand je vais à la banque, je demande qu'on me donne des faux billets, c'est beaucoup plus rentable. Ah, mais un faux truc qui fascine autant, quoi. On n'avait jamais vu ça depuis les comptes de campagne de Sarko. Bojarski était tellement fort que pour l'interpréter, Reda Kateb, vous avez dû vous entraîner sur les machines et apprendre ses gestes, hein, pour être le plus crédible qui soit. Bah, clairement, il y a des rôles qui rapportent plus que d'autres, hein. Tout à coup, j'ai envie de garder contact avec vous. Vous avez du papier à rouler sur vous, Reda? C'est pour un pote, hein. Enfin, ça, c'est dingue la manière dont vous êtes arrivé à ce rôle. Vous dites que vous êtes retrouvé dans un dîner avec Jean-Paul Salomé, le réalisateur, et qu'il vous regardait avec insistance et curiosité. C'est là que vous avez compris qu'il pensait à vous pour un film. Ouais, la gêne, ça a dû être un soulagement. C'est normalement quand on te regarde avec insistance dans un dîner, c'est pour te dire, avec ma femme, on vous observe depuis le côté de la table, et on voulait vous proposer un truc. Enfin, je sais pas, hein, ça arrive peut-être qu'à moi, j'en sais rien. Un autre truc que j'aurais fait différemment, c'est tout simplement le réalisateur Jean-Paul Salomé. Il a trop de prénoms pour un nom complet. Je suis désolé. Je vous le dis, il est louche, Salomé. Hein. À la question combien de prises faites-vous, il a répondu parfois 2, parfois 8, mais jamais 20. Mais c'est quoi cette réponse, quoi? C'est une charade du père Fouras? On dirait moi quand une fille me demande combien de minutes je tiens au lit. Parfois 2, parfois 8, mais jamais 20. Quand on a demandé à Jean-Paul Salomé pourquoi il vous avait pris vous deux comme couple à l'écran, Sarah Giraudeau et Reda Kateb, il a répondu « Je me suis mis à la place du spectateur. Quels sont les couples que je n'ai pas encore vus à l'écran ?» Eh ben sympa, en gros vous êtes les restes quoi. C'est... Si jamais Jean-Paul, hein, pour votre prochain film, Zendaya et moi, c'est du jamais vu non plus. Mais heureusement que c'est vous deux, parce qu'on y croit et on a même de l'empathie pour Bojarski. Au-delà de ses talents d'artisan, il prouve que lorsqu'un immigré n'est pas intégré à sa juste valeur malgré toutes ses tentatives et qu'il a, je cite le film, marre d'être traité comme un manque rien, un parasite, eh ben il peut se tourner vers une activité illicite. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'en 2026, vous avez intérêt à me faire percer, sinon je dévalise la Banque de France.
Yeah, merci Bruno.
Et le formidable Bruno Pecky est sur scène le 27 janvier. Où ça? Au Point Virgule, à Paris. Quel talent!
Soif de reconnaissance! C'est ça aussi, hein, Sarah Giraudeau, ce qui motive l'inventeur et, bah, et votre
l'artiste,
mari dans le film.
Je pensais que c'est un inventeur, mais c'est un artiste. Et qu'à un moment donné, s'il n'a pas au moins la personne qui reconnaît et qui voit et qui admire ce que tu
alors,
as.
Alors, il a avec sa femme, déjà.
Oui, mais elle le reconnaît.
Il a avec
pas.
Sa
oui,
femme, mais c'est ça le problème. Ce qui fait vraiment de dingue en solo pendant des années, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que c'est un enfermement tel que ça devient une obsession et avec ce petit diable au fond de toi qui te dit mais tu seras soulagé à partir du moment où on verra que c'est toi qui as fait ça.
Reda Kateb, votre personnage s'est construit avec donc cette rencontre dont parlait Bruno Pecky en allant voir Isabelle Huppert au théâtre. Si
oui, 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 sont c'est dans la Cerisée de Tchekhov, absolument.
Isabelle Huppert qui a déjà tourné, qui a tourné La Daronne sous la direction de Jean-Paul Salomé. Et il a construit le scénar avec vous, c'est-à-dire qu'il vous a raconté l'histoire, mais il n'avait pas encore de scénario à vous faire lire au tout début.
Non, il y avait cette envie d'écrire pour quelqu'un. Et du coup, c'est vrai que c'est très beau quand un projet comme ça vient très en amont parce que ça laisse du temps pour rêver à ce personnage, pour le rencontrer sans être tout de suite dans la production de quelque chose. Un tournage, ça va vite. C'est parfois on arrive sur des projets très peu avant le tournage.
Quelle pression quand même d'accepter un rôle sans savoir si ça va vous plaire, sans savoir si le scénar va vous plaire. C'est-à-dire vous êtes obligé de dire oui et vous le faites travailler. Vous pouvez plus le trahir derrière.
C'est pas faux. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Ouais. C'est vrai.
C'est une forme de pacte de confiance en fait qu'on se donne, mais dans lequel pour le coup il y avait des rendez-vous réguliers pendant l'écriture du scénario. Il n'était pas question d'un scénario clé en main que je recevrais et que je tournerais, mais au contraire, l'ouverture à des échanges pendant ce chantier-là, le fait de pouvoir questionner des choses pendant l'écriture du scénario, et puis c'est avant tout un cadeau en fait, un rôle comme ça qu'on écrit pour vous, c'est extraordinaire.
À partir d'une histoire vraie, tout est vrai dans le film, à part une seule invention. Oui, alors j'allais dire, les rapports humains, perso, intimes, est-ce que là on était documenté
Très peu sur sa femme. On sait juste quelque chose, parce que sa fille nous en a parlé après. Là, c'est la fiction qui la transforme, cette femme quand même. Elle était beaucoup plus éteinte, beaucoup plus...
L'ombre de Dieu.
C'est quand même une femme après-guerre, femme au foyer, comme, à s'occuper de deux enfants, avec un mari qui n'est pas souvent là. C'est-à-dire que dans la jeunesse, elle est amoureuse, et puis après, avec le temps, c'était une époque aussi où on vieillissait beaucoup plus vite. On était et puis la trahison entre guillemets qui est arrivée aussi a énormément éteint cette femme, l'a beaucoup blessée. Donc je pense qu'il y avait certainement un peu plus de monotonie dans leur couple, il y avait beaucoup plus de non-dits, parce que en dehors de ce gros non-dit là, c'est un couple qui communique quand même. Donc c'est une femme, elle apporte énorme, elle est très moderne, elle est très moderne par rapport à la position qu'elle a.
Il a vécu pratiquement 90 ans, c'est ça, non? Je crois qu'il est mort au début des années 2000.
2003, je crois.
Avec tout ce qu'il fumait pourtant, parce que c'est vrai que pour le coup,
comme quoi,
club sur club dans le film, comme quoi, c'est ça.
Comme quoi. Non.
Mais
t'as battu un jour ou l'autre. OCB appartenant à Vincent Bolloré quand même, c'est le papier à enrouler de Vincent Bolloré, de la dire qu'il y a un rapport ou pas. Enfin, c'était.
Comme de nombreuses choses aujourd'hui. Ouais,
absolument. Comme, en papier.
En papier. Mais non, le parcours de cet homme, ouais, c'est vrai qu'il a vécu longtemps. Après, il y a eu quand même une forme de blessure aussi chez lui, finalement. En fait, il était persuadé qu'il ferait pas de prison. Il pensait que, vu le graveur exceptionnel qu'il était, avec l'admiration aussi de ce flic qu'il poursuivait, ce qu'il racontait dans le film.
Et son
aussi.
Intelligence d'être seul, de ne pas avoir de complice, et donc et de le faire avec intelligence, et d'ailleurs tant qu'il faisait sa mécanique
son secret,
tout seul, voilà.
Et sans violence aussi.
Et il était persuadé qu'il serait un peu comme les hackers, quand ils arrivent à rentrer dans certains sites, bon ben on les embauche en cybersécurité, il pensait qu'il aurait une proposition d'emploi de la Banque de France.
Ou d'une monnaie étrangère.
Ou d'une... Absolument, ou d'un autre pays, et ce serait apparemment le général de Gaulle qui s'y serait opposé. Donc le fait de vivre la prison, de passer toutes ces années en prison, je crois que quand il est ressorti, il y a eu quelque chose de très blessé chez cet homme, qui était, moi j'ai toujours pensé ce film comme un portrait d'artiste, quoi, et j'ai toujours vu cet homme avec une grande poésie, enfin quelque chose de très pur finalement, et tout le contraire d'un gangster qui a un plan et qui finalement assumerait derrière.
C'est pas méchant au départ, c'est...
Non, bon après c'est un personnage que j'aime complexe aussi, qui n'est pas non plus uniquement que dans la douceur et dans la gentillesse. Mais en tout cas, c'est pas un gangster avec un plan.
C'est le Cézanne de la Monet, quoi. C'est quand même un surnom qui était quand même merveilleux. C'est de l'associer quand même à un grand peintre.
Alors justement, j'imagine qu'il y a quelques faussaires aussi en peinture qui sont extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas le talent de faire leur propre toile pour pouvoir les exposer ou les vendre, et qui se réfugient derrière des faux ou...
Oui, alors ce que je trouve aussi très beau chez Bojarski, et ce qui pour moi en fait un artiste, c'est qu'il voulait faire des faux billets plus beaux que les vrais. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire.
Il arrange le regard de Richelieu ou de Montaigne.
Absolument.
Alors, c'est
et
beau
il
ou c'est de l'ubris, quoi. Il y a un truc quand même un peu mégalo dans ce côté, je vais rendre plus vivant le Bonaparte. Il y a un petit côté un peu...
Vanité,
je suis au-dessus des hommes quand même.
Non, et puis il voulait
son unique spectateur, le flic, à un moment, le certifie aussi.
Est-ce qu'il voulait vraiment reconnaître... Est-ce qu'il voulait vraiment reconnaître les faux billets des vrais ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y avait toujours un petit détail qui pour lui était je glisse un indice pour ne
une
pas avoir
pétale,
à faire.
C'était une petite pétale en haut à gauche qu'il faisait exprès de ne pas faire pour qu'on reconnaisse le sien.
Mais pas le Bonaparte, je crois que le Bonaparte il avait fait à l'identique sauf peut-être
là,
l'expression des yeux. Mais
pour le faire passer pour fou.
Le jeu de cette erreur.
Les pupilles dilatées.
En tout cas, c'est ce petit détail qui fait que. C'est ce petit détail qui fait que les billets de Bojarski valent si cher aujourd'hui aussi. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Ouais.
L'affaire Bojarski, le film sort ce mercredi 14 janvier au cinéma. Sarah Giraudot, Reda Kateb sont nos invités, également présents au casting du film, Bastien Bouillon et Pierre Lotin, entre autres. On en parle jusqu'à midi et demi. Et puis, tout à l'heure, nous recevrons Arnaud Namas, qui est historien, chef du service du patrimoine de la Banque de France, justement. Est-ce que l'admiration était réciproque ou pas entre la Banque de France et Bojarski? Mais d'abord, voici Camille Lavard.
Excusez-moi.
C'est l'heure de Camille.
Puisque nous recevons aujourd'hui deux acteurs connus pour leur éclectisme et leur exigence, le choix de notre prochaine invitée s'est imposé comme une évidence. En effet, elle est aujourd'hui l'une des plus grandes metteuses en scène du théâtre français grâce à ses créations à la croisée des genres telles que Le Seul en scène circoncis, Les monologues du rabbin, ou encore La suite En attendant Godot 2, cette fois il a intérêt à venir. Elle a remporté 3 accoups d'or de cristal et 5 prix réduits billets réduc. Je veux bien sûr parler d'Angelica Rideau. Angelica, bonjour et bienvenue sur notre plateau.
Merci de m'y accueillir, même si vous n'êtes pas sans savoir que le plateau est un lieu immatériel qui n'appartient à personne, si ce n'est à celui qui l'habite.
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, j'aimerais aborder avec vous cette idée.
Et vous ne l'avez pas mentionné, mais j'ajoute que je travaille actuellement à la mise en espace d'une nouvelle création, un drame social en 13 actes qui raconte les aventures sexuelles d'une jeune institutrice inexpérimentée avec un proviseur lubrique.
Ah d'accord, ça va s'appeler comment ?
50 nuances de craie.
D'accord. Alors justement, je rappelle que dans votre autobiographie, Plein feu, sale vide, vous faisiez une critique particulièrement acerbe du cinéma. Est-ce que vous la partagez toujours ?
Absolument, absolument. Oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le cinéma demeure, si je puis dire, une entreprise de momification du présent, hein, d'immobilisation du réel. Là où les planches accueillent la fragilité de l'instant, la caméra, elle, a tendance à l'exploiter et à l'emprisonner dans une forme de boucle, je dirais, infinie. Hein. Oui. Je rappelle quand même qu'on en est à 3 avatars et 5 tuches.
Mais alors, qu'en est-il des acteurs, alors ? Oui.
Eh bien, je dirais que c'est presque pour eux que c'est terrible. Je veux dire, l'écran de cinéma, l'objet en lui-même, écrase la matière. Hein, il aplatit les corps. Hein, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Pierre Ninet avait la même tête de face et de profil ?
Pardon, mais je vous rappelle que nos deux invités sont acteurs de cinéma.
Oui. Non, alors, pardon, excusez-moi, mais non, alors là, je refuse ce terme.
Quel terme ? Acteur de cinéma ?
Mais oui, enfin, pourquoi cet oxymore qui les condamne ? Acteur de cinéma, et pourquoi pas plombier de fuite ou animateur de radio.
Ah non, mais attends, pardon Angelica, mais là vous devenez insultante.
Alors attention, non, alors, je ne jette pas la pierre à vos invités dont je n'ai par ailleurs jamais entendu parler. Non, que sais-je si ce film n'était pas pour eux en réalité un moyen de boucler leur intermittence.
Mais enfin, Sarah Giraudot et Reda Kateb sont des acteurs de premier plan. Enfin bon, il y a donc vraiment aucun espoir pour qu'on vous voie un jour adapter une de vos pièces ?
Adapter une de mes... Vous voulez dire réaliser un film ? Pardon, mais comment pourrais-je quitter la prodigieuse éphémérité du théâtre pour l'assommante mécanique du long-métrage ? Enfin, excusez-moi, pardon, mais si je voulais regarder une jeune première arriviste beugler 15 fois la même phrase devant une caméra, je regarderais la sextape d'Emma Beaujean.
Ok, donc pour vous, le cinéma est une cause définitivement perdue.
Écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai été surprise récemment. Mm-hmm. J'ai été surprise, au hasard d'un soir, je suis tombée sur le film French Lover.
Ah bah justement, c'est avec alors... Sarah Giraudot.
Ah, vous y faites une apparition ? Ah pardon, excusez-moi. En fait, je ne vous ai pas remarqué parce qu'en réalité, c'est une autre actrice qui a retenu toute mon attention.
Laissez-moi deviner. Camilla Vabre.
Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Une révélation. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, cette scène sensationnelle à la terrasse de café durant laquelle elle s'approche tout en tension hein, de Monsieur C. Omar et avec cette détermination tout aussi fragile que résolue, elle se plante devant lui et clame « Je peux vous encaisser s'il vous plaît ?» Wow. Mais quel ancrage, quel panache hein. Là, je vois une actrice, vous comprenez ? Et puis alors, avec sa tignasse de régisseuse et son nez qui va de cour à jardin, elle est clairement faite pour le théâtre subventionné.
Là. Donc ça veut dire que vous pourriez l'envisager dans 50 nuances de craie ?
Alors, non, mais pour un autre projet tout aussi savoureux, l'histoire vraie d'un chocolatier allemand durant la Seconde Guerre mondiale qui, faisant face à une pénurie de cacao, va devoir choisir de quel produit il se sépare.
Ah, et ça va s'appeler comment ?
La liste de Kinder.
Ok. Eh bien, on a hâte que vous reveniez nous en parler prochainement. Merci beaucoup, Angelica.
Avec joie. Merci à vous ainsi qu'au Fonds de Secours SACD.
Camille
Lavab qui a accepté d'accueillir Sarah Giraudot dans French Lover qui est encore sur Netflix.
Bien sûr, c'est ça la chaîne. Très belle petite apparition.
Et je peux vous encaisser s'il vous plaît, ça m'a bouleversé.
Les poils.
L'affaire Bojarski, le film Cette histoire vraie donc est au cinéma réalisé par Jean-Paul Salomé. Ça sera ce mercredi avec il y a cette histoire de couple, cette histoire de famille aussi, même la manière avec laquelle il essaye d'être le plus quotidien possible, le plus dans les normes finalement avec son foyer, mais ne pas être reconnu comme étant un génie, comme étant un artiste, comme étant talentueux, ça sera quand même sa blessure tout au long de sa vie. Et il a fait trembler la Banque de France, on en reparlera évidemment tout à l'heure. La musique du film... On est à la fois dans une époque et à la fois dans un film de suspense. à la Simenon, à la Maigret, je sais pas, il y a un côté très traditionnel dans l'ambiance. Reda.
C'était une des références dont m'avait parlé Jean-Paul Salomé avant d'écrire le scénario, parce que du coup, il y avait quand même déjà un peu l'idée de dans quelle esthétique ce film se ferait et tout ça.
L'époque déjà dirige l'esthétique, ouais.
Mais l'époque, évidemment, le costume, le chapeau. Bon, pour nous, c'est aussi très ludique, hein, le voyage dans le temps, de jouer avec ses costumes, ses accessoires, d'être dans ses décors. Mais aussi cette figure, de cet homme avec sa voiture qui parcourt les routes, qui mange seul au resto. On a beaucoup cette image de Maigret, de cette espèce de silhouette qui se balade.
Et du rapport entre le commissaire, enfin, entre celui qui fait de l'enquête et le bandit, ce rapport-là, qui est un rapport à la fois évidemment de chat et de souris, mais d'admiration mutuelle.
Fascination. Pour
Mathéi. Vous le disiez tout à l'heure.
Benamou de son véritable nom dans l'affaire Boularski.
Mm-hmm. Ouais, c'est une figure qu'on retrouve souvent au cinéma, cette chose du chat et de la souris. Et avec, je pense, cette chose de fascination. En effet, ils sont un peu condamnés l'un à l'autre. C'est-à-dire que le flic, c'est la grande enquête de sa vie. Et Boularski, ses billets, c'est le grand œuvre de sa vie en tant qu'artiste.
C'est un peu comme Jacques Mérine et le commissaire Broussard qui se suivaient.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans cette figure-là qu'on retrouve
pas
souvent.
Mais je ne suis pas sûr que Broussard admire Mesrine.
Il y avait une fascination, quand même.
Ouais, mais
j'en ai parlé avec lui, on est d'accord. Donc,
En tout cas, là, dans le film, le commissaire, s'il ne trouve pas, il n'arrive pas à attraper ce faussaire, jamais sa carrière ne décollera, en fait. On voit bien qu'il derrière, il vit des années un peu terribles.
Oui, ça le ronge. Je crois, il y a quelque chose. C'est deux hommes qui se dépouillent un peu comme ça au fil du film et au fil du coup de leur histoire.
Chacun avec une vie sentimentale catastrophique.
plus celle du commissaire que celle de Boularski, puisque
femme disait qu'elle avait l'impression d'être dans un ménage à trois avec Boularski quand même. Il y a une interview à la fin de sa vie qu'elle s'est dit il a fallu que je choisisse. C'était soit vivre avec Boularski au quotidien, c'était pas lui ou moi.
Tellement le commissaire était omnibulé par ses obsessions.
Je pense même qu'il avait très peur que ça s'arrête quand on est omnibulé par quelque chose. Il était tellement fasciné quelque part cette course. C'était son moteur. Et après, il a eu une grosse.
Mais d'ailleurs, cette admiration fait que, contrairement au commissaire Broussard, je ne pense pas qu'il ait pensé un dixième de seconde à tuer Boularski. C'était vraiment un jeu de chat et de la souris, mais comme un chat peut attraper d'ailleurs une petite souris, puis très content vous la rapporter encore vivante, tremblotante sur le pas de la porte. T'as vu ?
C'est cruel,
j'ai bien chassé, maître.
C'est un spectateur qui veut attraper son idole aussi, d'une certaine manière. Absolument. Et pour Boularski, ce flic, c'est son seul spectateur.
Ouais. À suivre, Arnaud Manas, donc, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de ce rapport entre la Banque de France et Boularski. On va parler de la musique cette fois-ci, mais pas de la bande originale du film, celle que vous écoutez dans la vie de tous les jours. Sarah Giraudeau, par exemple, Jeff Buckley. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. C'est en 2008, cette version, cette reprise de la chanson de Leonard Cohen. Jeff Buckley a eu l'autorisation que Leonard Cohen refusait à tout le monde parce qu'ils étaient amis. Mmh. Et il a dit à toi, je peux pas le refuser, alors que systématiquement, il refusait toutes les reprises.
C'est vrai,
pour aller au bout de l'anecdote, il a coupé un couplet, parce que la chanson est beaucoup plus longue. Il a coupé un couplet, par amitié, Leonard Cohen a accepté, puis maintenant, tout le monde reprend la version de Jeff Buckley plutôt que celle de Leonard Cohen.
Mais la chanson, elle n'est pas sortie en 2008, c'était 97, je crois.
C'est en 2008 qu'elle écoutait, pardon.
Ah, pardon.
Calmez-vous.
C'est le principe de cette émission. Tu as envie d'écouter Edith Piaf là en 2026, t'as le droit. Voilà, merci beaucoup.
Je t'ai entendu dire en 2008.
Merci. Tu seras toujours le bienvenu quand tu reviendras.
Sarah, en 2008, on vous retrouve dans un téléfilm d'André Chandelle, Les Poissons Marteaux.
Je m'en souviens. Je pense que c'est mon seul très très beau souvenir à la télé. Je parle pas du Bureau des légendes et tout ça.
Bien sûr.
Dans mes débuts qui étaient très chaotiques à l'image, c'est un souvenir que je garde dans ma mémoire, vraiment.
Parce que vous jouez, vous incarnez une adolescente handicapée.
Handicapée mentale, et j'étais au milieu d'un groupe, tout un groupe d'enfants de vrais handicapés mentaux, et on a vécu cette aventure incroyable.
Vous dites que ça passait par les câlins, par le...
Par les câlins, par la lucidité aussi, d'un moment donné, ils comprenaient que je jouais.
Et oui, et c'est dur ça.
Je jouais eux, et sachant qu'en plus, ils étaient tous très différents, il y a des handicaps très différents. Mmh. Et c'était rempli d'amour, c'était rempli de bonheur pour moi aussi de jouer ces rôles-là, parce que c'est des rôles que j'adore, ces personnages qui ont une autre, qui ont autre chose, qui ont une poésie à eux, une bulle, une solitude intérieure qui fait qu'on va puiser un peu dans notre enfant pour aller essayer de sortir des choses différentes. Et voilà, ouais, c'était un souvenir incroyable.
Reda Kateb, vous écoutiez en 2008. Mais Abouzou, alors cette chanson n'est pas sortie en 2008, c'est ça qui est absolument incroyable. Vous l'écoutiez.
Cette émission, voilà.
Elle
était reprise par Edith Piaf.
Et on est dans la période engrenage.
Absolument,
Leïla.
Vous incarnez un caïd des cités dans cette série à succès, Engrenage. Premier jour, première scène, c'était quoi? Vous vous souvenez? Première réplique.
C'est marrant le contraste entre cette musique, oui, et ce dont vous parlez. C'est pas de la musique de caïd, ça.
Non. Ou alors un autre genre de caïd. Pourquoi pas un caïd à inventer.
Ouais, c'est plus une musique spirituelle. Mais ma première réplique. Non, dans Engrenage, avant de parler, je cassais un pare-brise. Donc ma première réplique. Ou alors
l'action.
C'était sûrement un gros mot que je disais en cassant ce pare-brise. Ouais.
Et c'est ce qui fait que Jacques Audiard vous a vu aussi.
C'est à ce moment-là, oui, ouais, après Engrenage, que j'ai pu passer des essais pour le film Un prophète, absolument.
Revenons à l'affaire Bojarski avec vous, Arnaud Manas. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir à ce micro. Vous êtes chef du service du patrimoine de la Banque de France.
C'est faussaire.
Mais que le week-end. En semaine, il n'a pas le temps.
Il a écrit l'histoire de la fausse monnaie en France, des Gaulois à nos jours, puisque visiblement, il n'y a pas eu de période plus qu'une autre qui n'a souffert d'absence de faussaire.
Toujours eu. Ben, on estime que les premières fausses pièces, puisque à l'époque c'était des fausses pièces, oh non, bien avant, ouais, c'était des pièces grecques, les drachmes, c'était des statères, tout ça, ben, ça date de la même époque, la même année que les authentiques. Les premières monnaies, bah, dès qu'on fait quelque chose, bah, un faussaire se lance dans
l'imitation. Ouais.
Voilà.
Est-ce que Bojarski est beaucoup plus connu au sein de la Banque de France qu'il ne l'est au sein du public français qui va aller au cinéma mercredi?
Ah oui, oui. clairement. Bah, ça a été quand même la grande affaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Et le film retrace très bien cette lutte, parce que il a posé des tas de problèmes et des tas de questions, puisque le commissaire Benamou était persuadé à une époque que c'était trop bien fait et que ça ne pouvait être que des agents de la Banque de France.
Ah oui.
Donc il a enquêté
au sein de la Banque de France.
Au sein de la Banque de France. Bon, après il s'est rendu à l'évidence que ce n'était pas ça.
Que personne n'avait le talent à la Banque de France pour être
non.
si bon. Bojarski,
non,
c'est
alors
ça
c'est
vous
un mythe. Ça c'est un mythe. Je vous arrête tout de suite.
Mais est-ce que le travail de la Banque de France à l'époque, puisque là maintenant on est passé à l'euro, donc j'imagine que ce sont plusieurs pays qui se concertent pour éviter la fabrication de faux billets, mais est-ce que le travail vraiment, comme on le voit dans le film, était on va changer, de créer de nouveaux billets pour à nouveau ralentir les faussaires?
Alors, c'est une tradition. C'est
vraiment action-réaction, quoi.
On sait que l'évolution de la technologie fait que un billet est dépassé au bout de 5-10 ans.
D'accord.
Et que la Banque de France a toujours un ou deux billets d'avance pour réagir en cas de contrefaçon. Mais si Bojarski était peut-être le plus talentueux, c'était loin d'être le seul et loin d'être le plus dangereux.
Ah, alors qui donc?
Ah, qui donc? Alors, sur la fausse monnaie, si on parle de façon plus large, ça a été souvent comme une arme de guerre. Puisque on a eu Hitler qui a fait de la fausse monnaie, qui a voulu ruiner l'Angleterre en inondant
de faux billets, de fausses livres.
Mais là, la question est posée dans le film. On se demande si c'est pas non plus
pour déstabiliser venant du RSS.
Alors on se dit, est-ce que ce sont pas les Soviétiques ou autre chose? Mais aussi Napoléon a fait de la fausse monnaie, etc., etc. Donc, en termes de production, c'était pas le. Lui, c'était un petit artisan. Bon, on le voit. Hein, il imprime ses billets à la main, un par un. Alors que les faussaires, beaucoup plus traditionnellement...
Ils font du meilleur industriel, presque.
Oui, c'est de l'industrie, c'est-à-dire qu'ils impriment de grandes quantités, ensuite ils détruisent le matériel, et puis ils vont les vendre à des écouleurs qui vont, eux, se charger de les mettre en circulation.
Mmh. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en 2026, des faux monnayeurs qui, justement, font tourner la tête des banques nationales
Alors, il y a toujours des faux monnayeurs, hein, ça existe. Alors, on est...
On dématérialise quand même beaucoup aujourd'hui. Hein? J'ai l'impression qu'on dématérialise tellement l'argent.
On dématérialise, mais le billet reste toujours le moyen de paiement le plus sûr. Et même en termes de contrefaçon, on publie de façon tout à fait transparente les statistiques, on est à moins de 18 billets par million de billets authentiques en circulation. Moins de 18 billets faux par million de billets authentiques.
Est-ce que généralement ce sont les petites coupures qui sont les plus fausses parce qu'elles sont plus faciles à écouler que les...
Ce sont généralement des billets, oui...
De 10, de 20
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et qui sont pas de très bonne qualité. Alors là, Bojarski trouverait ça...
Choquant.
Regarderait avec un mépris total.
ce côté snob de Bojarski.
Oui, exactement. Non, parce que c'est fait... Ça va... Généralement, c'est même ce qu'ils appellent les billets Walt Disney. C'est-à-dire que ce sont des billets imprimés, papier, tout banal.
Ouais, comme au Monopoly, quoi.
Voilà, Monopoly, ouais. Et avec marqué Walt Disney, ou billet de cinéma.
Incroyable.
Parce que dans certains pays européens, ils peuvent prétexter et les peines sont moins élevées en disant « Ah, c'est un billet de cinéma, voilà, c'est une blague. Ah, » Il suffisait de regarder, vous n'avez même pas vu qu'il y avait marqué Walt Disney.
Leïla posait la question avec la dématérialisation et avec le sans-contact. Maintenant, on n'a même plus de carte de crédit, c'est avec son téléphone que l'on règle beaucoup de choses. Est-ce que les billets vont continuer d'exister ou est-ce que tout ça sera remplacé?
Est-ce que tous les billets, il y en a qui ont disparu d'ailleurs, il y avait des gros billets.
Ah, les billets de 500 euros,
oui.
Les billets de 500 euros ont disparu parce qu'ils n'étaient pas très utilisés et si ce n'est dans le blanchiment.
Ah, voilà, bien sûr.
Le seul qui avait ça, c'était le dealer de coke.
Voilà.
Bah, okay, c'était un moyen de les arrêter, donc on aurait dû le garder.
Voilà. Mais c'était les billets, c'est quand même le moyen le plus inclusif et le plus résilient. Parce que panne d'internet, panne d'électricité, vous me direz comment vous payez.
Encore faut-il les avoir retirés, parce que c'est ça, comme on n'a plus beaucoup d'argent sur soi...
Voilà, ça c'est pour ça que c'est une des recommandations de la Banque Centrale Européenne, de dire, gardez au moins toujours des espèces chez vous.
100 000 à peu près.
À la louche.
Question, est-ce que vous avez un scoop à nous annoncer de la même manière qu'il y a des billets de 1 dollar? Pourquoi il n'y a pas des billets de 1 euro ou de 2 euros?
Alors, les billets de 1 euro, ça n'a pas d'intérêt.
Parce que le dollar et l'euro, c'est l'équivalent, oui. Donc
c'est plutôt les Américains qui veulent abandonner les billets de 1 dollar pour passer à la pièce.
Okay. Okay. Oui.
Parce qu'une pièce de monnaie, ça se...
Ça coûte moins cher à fabriquer qu'un billet?
Ça coûte plus cher à fabriquer, mais ça dure beaucoup plus longtemps.
Oui.
Parce que la durée de vie d'un billet, c'est moins de 6 mois.
Quoi?
6 mois?
Un billet
vous parlez dans
de
votre
5
poche,
euros
en général.
Vous êtes rabbin, c'est ça?
Ça vous brûle?
Ça se déchire, ça s'abîme.
Exactement. Okay. On est obligé de les changer. C'est pour ça qu'on produit en continu des billets. Alors, un billet de 100 euros, les gens font attention. Mais un billet de 5 euros, vous le pliez, vous le mettez dans la poche, vous asseyez dessus.
Il passe à la machine parfois.
Exactement, à la machine.
Si on le déchire et qu'on le recolle, il est encore valable?
Mais bien sûr. Et même si on le recolle et même s'il manque un petit bout, alors il y a des règles très précises qui disent que il faut avoir 51% du billet. Parce que sinon.
Moitié-moitié.
Je veux bien faire une caméra cachée avec quelqu'un qui va, avec 51% du billet, payer quelque chose. Ça m'étonnerait qu'on
aille à la banque.
Il faut aller à la banque.
Ah, d'accord. Okay.
Ça, c'est pour ça.
Et vous parlez de combien de millions de billets en circulation?
Alors ça, c'est en milliards.
Parce que vous dites qu'il y en a 18 de faux pour 1 million, c'est pour savoir à peu près la proportion.
C'est-à-dire que c'est... Alors, ça dépend, parce que ce sont des statistiques au niveau européen.
Oui.
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais vous allez sur le site de la Banque de France,
d'accord,
ou celui de la Banque Centrale Européenne, vous saurez
tout. Sera
vous avez là, des apprentis faux monnayeurs qui nous écoutent.
Merci Daniel. Vous avez vu le film,
oui.
Et pour vous, c'est...
J'ai beaucoup aimé le film.
Super.
Et surtout, le jeu d'acteur l'auteur et l'interprétation, parce que le rapport entre Benhamou, que j'ai croisé une fois quand je suis rentré à la Banque de France. Le commissaire Benhamou. Et sinon, et Bojarski, c'était pas du tout la même chose. Hein. C'était.
Vous racontez tout dans l'histoire de la fausse monnaie en France, des Gaulois à nos jours. C'est aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être venu à ce micro, Arnaud Manas. Voici Emma Beaujean. Ah oui.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à Montreuil. Alors Montreuil, vous qui nous écoutez ne connaissez peut-être pas bien la région parisienne. C'est une ville limitrophe au nord-est de Paris, située donc dans le 93 et c'est vraiment la ville gentrifiée par excellence. Moitié popu, moitié bobo. C'est l'entre-deux où se côtoient les bons vieux grecs, salade, tomate, oignon, pain maison, sauce blanche harissa et les kebabs berliner 2.0, pain pita au levain, poulet fermier mariné, légumes rôtis, pickelisés, sauce yaourt bio à la mantarini, citron yuzu, servi sur une planche de bois papier recyclé avec une limonade artisanale. En général, les gérants sont des gens qui vont te dire, en fait, alors cette entreprise de viande brochée, elle est venue d'un concept totalement fou. La plupart des boîtes sont des boîtes et en fait donc des carrés. Et nous, en fait, on a voulu privilégier un rond, en fait, donc un commerce circulaire, en fait, et donc sans angle. Et on a fait une école de commerce et on veut se faire des couilles en or massif. Bref, Montreuil, il y en a pour tous les coups de gré, même si, je dois vous le dire, les bobos gagnent du terrain. Voilà, je vous cache pas, moi j'ai habité là-bas quelques années, c'était super. Franchement, mes plus belles années, je me sens chez moi là-bas. C'est tellement cool que je dois vous avouer, si je suis partie, c'est pas parce que j'en avais marre. Hein. Je pense juste que dans la vie, faut savoir se renouveler. Voilà, je pense que bon, c'est juste la jolie formule que j'ai trouvée pour dire que je m'étais tapé tous les mecs de cette ville et qu'il est temps de renouveler mon roster. Bah oui, hein, j'ai tapé large à Montreuil dans la ville des intermittents, j'en ai déroulé du cap de Técos. Mais aussi, dinguerie, un jour, sachez que j'ai fréquenté un ébéniste avec le bois et tout. Là, je sais pas pourquoi ce métier m'excite autant. C'est absurde. On dirait un fantasme du Moyen-Âge. Messire, la boiserie, c'est trop bizarre. Et en plus, pendant qu'il me parlait, j'écoutais pas, j'étais focus sur ces gigamins, là. Gna gna gna, je suis ébéniste, gna gna gna, gna gna. Oh, je suis ébéniste, gna. Ponce-moi, Emilien, ponce-moi. Par contre, pardon, il s'appelait pas du tout Emilien, je sais plus, juste, j'ai pas son prénom, parce que dans mes contacts, il s'appelle Poutre Apparente. Bon. Alors, à Montreuil, j'ai aussi fréquenté Jimmy. Alors, Jimmy, lui, il était tatoueur, slash vendeur de jeans, slash upcycler, slash énorme baiseur. C'est le genre de gars qui porte des bonnets, des t-shirts noirs à manches longues, qui cache sa bouche sur les photos, qui a un compte Insta à 600 abonnés, dont les 500 meufs qui s'est tapé juste avant toi, et qui prend tes commandes sur son iPad en disant « Yes, carrément les gars, bah, pas de sous ça ». Parce que oui, ils vendent aussi des burgers pulled pork dans son salon de tatou d'enculé. À Montreuil, et ça c'est une de mes catégories préf, j'ai aussi croisé l'acteur frustré qui joue les performative male. Autrement dit, c'est le gars qui surjoue le féminisme avec une idée très claire derrière la tête. Tu sais, c'est le genre de gars qui met du vernis sur ses ongles juste pour les mettre dans une meuf, en fait. Voilà. Après, attention, il n'y a pas que des fuckboys bobos à Paris, à Montreuil, il y a aussi des parents bobos. Oui, vraiment. À Montreuil, les vendeurs de sièges vélo enfants ont de meilleurs jours devant eux que les vendeurs de télé. Et à Montreuil, il y a des figures emblématiques, notamment vous, Reda Kateb. À Montreuil, vous êtes un petit peu comme la Dalida de Montmartre, en espérant que moins de touristes vous toucheront les nibards. Et j'y pense, je viens d'outrepasser toute forme de respect, alors au nom de la bande, excusez-moi. Il y en a, sachez qu'ils pensent encore que Montreuil, ça craint. Je pense que quand on dit banlieue, peut-être ils entendent banni du lieu, je comprends pas ce qui se passe. C'est faux, ça craint tellement pas Montreuil. Moi, vraiment, j'ai moins peur de rentrer à Montreuil à minuit qu'à Paris à midi. Et une vraie anecdote, à l'époque où j'ai visité mon premier appart là-bas, j'avais 18 ans, mon papa m'a accompagné parce qu'il était inquiet, c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Il a demandé à un mec qui passait dans la rue en baladant son chien, histoire de se rassurer, excusez-moi, mais est-ce que ce quartier il est bien, c'est pour ma fille, elle va vivre ici, je me demandais. Le gars a répondu, oui, oui, vous en faites pas, c'est très bien ici, votre fille sera très bien. Et figurez-vous que ce mec, c'était vous, Reda Kateb. Donc c'est grâce à vous que j'ai pris cet appart, appart qui a pris feu 3 jours plus tard, dans lequel j'ai perdu l'usage de mes jambes. Non, évidemment, c'est faux. J'ai vécu des années extraordinaires dans cet appart, les plus belles. Et après, j'ai juste redéménagé en boucle à Montreuil. Et en écrivant cette chronique, j'ai réalisé que je suis partie de chez mes parents parce que la seule chose que je savais que je voulais faire dans ma vie, c'était partir. Et en arrivant à Montreuil, j'ai su que je voulais rester dans le coin pour essayer de faire rire des gens. Alors aujourd'hui, je vous ai fait des blagues sur Montreuil et ça a beaucoup de sens pour moi. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Et bonjour pour l'avoir à Paris. Il faut attendre le 3 février. Ah. Ce sera à 19h au théâtre Le Pic. Oui.
La bande originale avec Leïla Gabé-Boudadji, Emma Beauchamp, Camille Lama, Bruno Péqui, Paul Delaf, Tanguy Massuro, Daniel Morin et nos invités Sarah Giraudot et Reda Guettaz.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Reda Kateb et Sarah Giraudeau, donc, pour ce film avec Bastien Bouillon, Pierre Lotin et également Quentin Dolmer, Victor Poirier, Olivier Lousteau, Lolita Chama qui fait une brève apparition, mais qu'elle a cette musique dans son jeu qui fait toujours plaisir. Camille Japy également présente. Une fresque historique, une histoire vraie, tout est pratiquement vrai. Alors vous avez précisé tout à l'heure, vous avez dit pas totalement, tout n'est pas totalement vrai, mais les grandes trames de l'histoire sont respectées, en tout cas. Peut-être la vie privée, c'est peut-être ce sur quoi on a le moins d'informations.
Les grandes lignes sont respectées, mais oui. Après il devait faire un film, et donc forcément pour en faire un film, il a dû y mettre un peu de piment, mettre des accessoires. Voilà, Bojarski et Benhamou ne se sont jamais rencontrés dans la vie, mais apparemment c'est ce que Benhamou disait, que c'était un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir passé du temps avec cet homme et parler avec lui. Et il s'est dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais mettre la scène dans le film, et en plus avec que des faux semblants et des voilà. Donc,
et qui va bien avec l'esprit, qui va bien avec l'esprit du personnage, c'est-à-dire celui un tout petit peu de provoquer et ce besoin de reconnaissance. Et ça commence par la connaissance, c'est-à-dire se dire, je vais prendre un verre juste à côté de celui qui me cherche, mais qui ne sait pas à quoi je ressemble.
Alors que j'ai failli me faire attraper la seconde.
Ouais,
en fait.
C'est ça qui est génial. Ouais. À Vichy.
À Vichy, en plus.
Un symbole.
Quelle belle ville.
Mais c'est vrai qu'après, ça a laissé de la place quand même, du coup, le fait qu'on ne soit pas à suivre uniquement comme dans des biopics classiques, que des choses biographiques connues. Moi, par exemple, je n'ai pas eu à faire de travail d'imitateur de Bojarski. Personne ne connaît son visage, sa voix. Ça aurait été différent si finalement j'avais joué un type que tout le monde connaissait et tout ça. Donc ça nous laissait quand même de la place pour l'imaginaire, pour en faire un film avec beaucoup de liberté aussi. Et toute l'histoire du couple qui n'est pas documentée et tout ça, ça laissait aussi de la place à la fiction, quoi, d'une certaine manière.
Ouais, de transformer en thriller. Je pense que beaucoup moins excitant dans la vraie vie. Cet homme qui faisait tout seul quelque chose de dingue, mais où, voilà, dans les scénarios, il a fait avancer la dramaturgie de la bonne manière.
Et qui se faisait ronger par sa passion, par ses passions, c'est-à-dire que tel qu'on le voit quand même dans le film, c'est-à-dire passer des heures à chercher, à réfléchir, à trouver, et pas que pour la fausse monnaie, mais vraiment des heures de boulot. Il était, c'était son talent qui prenait la majeure partie de son temps.
Oui, rongé, dépouillé par cette œuvre, quoi, et même physiquement, du coup, il avait des maux de dos, il prenait plein de médicaments, enfin, il y avait quelque chose.
Mal aux yeux.
Qui se consume, ouais, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Et qui a monté comme ça au fil de sa vie, parce que c'est pas linéaire non plus. On parle pas une photographie d'un Bojarski qui serait le même au début et à la fin du film. Il y a toute une évolution, et dans cette évolution, ouais, il y a un homme qui à un moment se brûle un peu en faisant ses
billets. Ouais, et puis d'en arriver, ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Opecky, et ce qui a été rappelé par notre invité, monsieur Manas, qui était de dire que l'un de ses faux billets a été vendu aux enchères comme étant une œuvre d'art, c'est-à-dire que c'est aboutissement.
C'est une ironie de l'histoire aussi, ou une forme de justice peut-être à cet homme.
La vraie reconnaissance.
Ouais, un vrai Bojarski, un faux de l'époque, vaut tellement plus cher qu'un vrai de l'époque.
Le film est en effet un thriller rondement mené et puis extrêmement bien interprété, vous l'avez compris, Sarah Giraudeau, Reda Kateb, Bastien Bouillon et Pierre Lotin, entre autres sous la direction de Jean-Paul Salomé. Voici Tanguy Passion.
Faut que je vous raconte, samedi, j'ai fait un dîner en famille et j'ai oublié mon téléphone dans mon manteau. J'ai vécu 3 heures comme au Moyen-Âge, sans notif, sans message. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'arrivais à me concentrer sur les conversations. Et puis la soirée s'est finie, j'ai repris mon manteau, j'ai regardé mon téléphone, il y avait 5 notifs type breaking news, dont 3 quand même à propos de Trump. C'est-à-dire que Trump a visé des cibles de l'État islamique en Syrie, Trump a demandé aux Américains d'évacuer le Venezuela, Trump a menacé Cuba. C'est-à-dire que le temps que je mange une salade chèvre chaud et une part de galette des rois, Trump avait fait tout ça. Si encore j'avais eu la fève, j'aurais pu dire hey, moi aussi il se passe des trucs dans ma vie, hein. Mais c'est ma nièce de 8 ans qu'il a eu. Non seulement elle a l'avenir devant elle, mais en plus elle a la fève. J'en peux plus de ces gosses. Ces êtres sont créés par nous-mêmes pour nous humilier 8 ans plus tard. La reproduction n'a aucun sens. Mettez des capotes, 4 minimum, l'une sur l'autre, jusqu'à ce que votre sexe ressemble à Bruno Le Maire en col roulé, pour être sûr de surtout ne féconder personne. La vie de Trump, c'est chaque jour frapper 4 pays, projeter d'en acheter 3. trois et en même temps faire des plans de paix dans deux autres. Ce mec est moins facile à suivre qu'un GR qui finit dans les fougères. Bref, d'habitude, tu sors de soirée le samedi, bon, il n'y a pas d'actu, hein. Tu t'écroules devant Quelle Époque en disant c'est fou qu'ils invitent toujours les mêmes connards et jamais moi. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Mais là, à 23h30, tu as le monde entier qui part en vrille. Le taux de suicide chez les diplomates doit avoir dépassé celui qu'il y a chez les paysans. Un dîner chez l'ambassadeur, c'est 14 types qui disent au serveur « Poussin, t'es gentil, t'es Ferrero Rocher, tu mets des Xanax dedans et là seulement tu reviens nous voir ». Ça m'a épuisé, c'est pour ça que j'ai dormi. C'est un type que je vous donne, si vous êtes fatigué, dormez, après ça va mieux. Et hier dimanche, jour du Seigneur et des frites, j'ai eu envie de mettre de côté l'actu internationale, j'en pouvais plus. Au hasard, j'ai mis BFM TV en tremblant, hein. Et ouf, ils sont partis sur les élections municipales. L'actu plan-plan de nos régions, de nos terroirs. Bon, il se trouve que je suis parisien. Pas par choix, hein. J'ai demandé à ce que France Inter soit délocalisée à Cassis ou au Cap d'Agde. Hein, on pourrait faire de la radio tout nu. Enfin, nos chroniques feraient des vues sur YouTube. Hein, certains en feraient plus que d'autres. Mais ça ne s'est pas fait, donc bah, je suis à Paris, quoi. Alors d'abord, pour ceux qui n'habitent pas Paris, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une terre de contraste, parce qu'elle est peuplée de millionnaires qui déjeunent dans des bars à soupe et de précaires qui meurent dans des tentes de quechua. Entre les deux, il y a juste les chroniqueurs de la bande originale. Il faut savoir qu'à Paris, on ne vote pas pour le maire directement. Personne n'a jamais mis de bulletin de vote Anne Hidalgo dans l'urne. Hein, on voit que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça, au fait qu'à la présidentielle 2022, elle a fait 1,75% des voix des malvoyants qui votaient pour quelqu'un d'autre et qui se sont trompés. À Paris, en fait, on vote pour des conseillers de Paris qui votent, eux, pour le maire. À Marseille, chez Camille Vabre, on fait comme ça aussi. Et à Lyon, chez Oldelaf, qui n'est pas de Lyon, mais je trouvais ça super triste que Lyon n'ait personne de l'équipe, quoi. Hein, à Lyon, c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un candidat qui a moins de voix qu'un autre, en fait, peut l'emporter. Parce que les arrondissements n'ont pas le même poids. Enfin bref, c'est plus opaque que l'anus d'un grizzly. Donc, moi, je ferai une chronique par commune qui vote au municipal. Hein. C'est promis, il y en a 34 875. Je vais mourir d'ennui avant d'en avoir couvert 4. Mais alors, pour l'instant, Paris. À Paris, les premiers sondages sont tombés. Alors, numéro 1, vous savez qui c'est ? On a Emmanuel Grégoire, qui était le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Alors, je ne sais pas si ça se met dans un CV, réellement. En tout cas, il lui a déjà filé les clés de la réserve à Gruyère. Hein, si les 4 millions de rats qui se nourrissent de touristes chinois s'agitent, bon, il leur en jette. Anne Hidalgo elle-même était première adjointe du maire d'avant. C'est bien, parce qu'en fait, ils refilent le titre. Hein, c'est comme une course de lévrier, mais sans pattes, hein, parce que c'est lent, c'est tous les 6 ans seulement. Alors, le programme d'Emmanuel Grégoire, classique, la gauche licorne, service public fort, loyer abordable, ville apaisée. Et alors, il met dans son programme « transport doux ». Alors moi, je pensais que ça voulait dire que pendant que vous marchiez, quelqu'un vous caressait un peu, tu vois, en vous disant « Jean-Pierre, tu es exceptionnel ». Ça existe, hein, c'est le bois de Vincennes quand on tombe sur quelqu'un d'un peu psychologue. Et en fait, c'est juste un énième plan vélo, quoi. Enfin, on n'en peut plus. Rachida Dati, la femme d'Attila, arrive deuxième. Elle veut de la sécurité, de la propreté, que ça tourne. Elle, premier qui moufte, elle lui bouffe l'oreille. Alors, elle, c'est LR Modem, d'accord ? Elle fait 26%. Et à côté, il y a un candidat Horizon Renaissance, c'est-à-dire la même chose. Hein, les gens qui arrivent à faire la distinction peuvent partir sur la Coupe du Monde des Pinailleurs. Lui fait 16. Les listes fusionnent. Il passe en numéro 1. Pensez-vous qu'il le ferait, Cézanne ? Eh ben non, je crois qu'ils ont une passion pour la loose. Ou alors, étant de droite, ils se disent « Je vais pas pouvoir gérer les trentenaires à vélo cargo de l'Est parisien, je vais rouler dessus en hurlant « Pourquoi as-tu appelé ton enfant Barnabé ?» Donc je vais tout faire pour perdre. Hein, il vaut mieux. Alors soyons complets, parce que c'est normal de citer tout le monde. Pour LFI à Paris, il y a Sophia Chikirou. Niveau caractère, c'est un peu une Dati de gauche. Hein. S'il y a un débat télé, ils vont mettre un ring à la place de Maxime Switek, ils mettront The Rock. Pour le RN, Thierry Mariani. Et alors pour le parti de Zemmour Reconquête, ils ont sorti Sarah Knafo, vous savez, la star des réseaux, une influenceuse qui n'a pas encore touché le grand public, parce que quand elle est apparue sur TF1 dans le JT pour annoncer sa candidature, 1 million de gens, instantanément, se sont barrés. C'est-à-dire que David Copperfield, il y a 30 ans, faisait disparaître la Tour Eiffel. Elle peut faire disparaître tous les gens qu'il y a autour, en fait. Alors son slogan, vous connaissez son slogan, c'est « Une ville heureuse, Paris ». Voilà, ça prouve qu'elle ne connaît pas Paris. Non, on gueule, on boude, on râle, on chouine. C'est ça Paris, c'est pas une ville, c'est une névrose. Bon allez, demain je pars sur les municipales à Châtellerault, puis à Douarnenez, à moins que d'ici là, évidemment, la guerre nucléaire n'éclate.
Merci. Tanguy Pascoureau.
qui sera à Lille le 11 février au théâtre Sébastopol.
Je ne sais pas si je prends beaucoup de risques, mais je crois qu'à partir de ces nouvelles élections municipales, on pourra voter directement pour le maire, en plus du maire d'arrondissement pour Paris, Lyon
et Marseille.
Et Marseille. L'affaire Bojarski sort ce mercredi, 14 janvier. Une histoire vraie, ou d'après une histoire vraie, mais c'est un véritable thriller. Il a fait trembler la Banque de France et peut-être les politiques d'ailleurs. Et il a aussi une histoire très particulière, cette histoire d'un énorme talent qui a envie d'être reconnu. Et d'autres talents dans la culture, Leïla, tout de suite.
Oui, on va parler de Gérard Majax.
D'accord.
Alors les plus jeunes ici ne connaissent pas Gérard Majax. Je vois bien tout d'un coup Emma, je le cite, Bruno. Nous on connaît Gérard Majax, le célèbre magicien illusionniste qui a fait des belles heures de la télévision française avec beaucoup d'émissions.
Juste avant le 20h, il est cartonné.
Exactement, vraiment des émissions. Il s'est fait connaître du grand public de façon massive. Il a même été acteur, on le voit dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Ce que l'on sait moins, c'est que Gérard Majax...
n'est pas magicien.
Ça, je ne pourrais pas faire cette révélation, mais il a fait partie d'un fait divers, un des plus tristes qui est lié à l'histoire du cinéma. Un fait divers qui a fait l'ouverture du JT. On est en 1973. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quelques indices.
D'un accident? D'une mort?
Alors, cet événement va être conclu par une mort, une femme qui a 35 ans, il n'est pas il n'est pas directement lié, Gérard Majax, à cela. C'est le 18 octobre 73. Il a simplement l'idée de prendre un avion pour partir à Nice. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah non.
Un vol Paris-Nice, le 18 octobre 73. Une femme, à bord de cet avion, va détourner l'avion.
Ah oui, c'est par rapport... C'est cette femme qui voulait que le film Rabbi Jacob soit déprogrammé des salles de cinéma.
Absolument, bravo Tanguy, c'était pas facile à trouver. Je parle de Danielle Craven. Danielle Craven, à cette époque-là, a 35 ans. Elle est mariée avec Georges Craven, qui est publicitaire, et c'est lui qui assure, justement, toute la promotion autour de la sortie du film Rabbi Jacob. Ce film-là, Gérard Houry, qu'il réalise, sort dans un contexte très particulier. On est en pleine guerre du Kippour. Donc, il se demande si c'est une bonne idée de sortir ce film à ce moment-là. En gros, il reçoit des menaces, mais de chaque côté. Soit disant que c'est pro-israélien, soit disant que c'est anti-juif contre, et que c'est une caricature en fait, de la communauté. Donc en gros, il est seul au monde. Il a quand même un film à sortir. Georges Craven considère qu'il faut y aller en prenant des précautions, en faisant en sorte que Louis de Funès, sur tous les plateaux de télévision, dise bien que c'est un film qui n'est pas là pour remuer des choses pénibles. Exactement, que c'est vraiment fait avec fraternité, la main dans la main, etc. etc. Sauf que Danielle Craven, elle, embarque à bord de cet avion avec son petit chien et elle cache dans son sac une carabine 22 long rifle démontée et un pistolet d'alarme. Elle demande à, justement, elle prend donc cet avion en otage d'une certaine façon, elle demande à ce que le vol soit mené au Caire, sauf qu'elle elle accepte, parce qu'elle est vraiment, on voit que c'est une femme qui est un peu instable quand même.
Non, tout ça parce qu'elle détourne un avion.
Non, mais parce que
tu juges un peu vite.
Non, parce que vous allez voir, c'est un peu intéressant quand même de voir ce personnage, de pas en faire que juste une caricature, parce qu'en fait cette femme là qui est un peu perturbée considère simplement, elle fait une lettre. Et elle a des revendications. Ces revendications, c'est quoi? C'est que les bobines du film de Rabbi Jacob soient mises sous scellé jusqu'à ce que les Israéliens et les Arabes arrêtent de mourir. Elle demande aussi d'arrêter les voitures pendant 24 heures, donc on est quand même sur une vision aussi, voilà. Elle demande à ce que François fasse sa une sur les ethnies spoliées. Elle demande à changer l'affiche, que ça soit un Israélien, un Palestinien, un Arabe qui se tienne la main. Elle a un certain nombre de demandes dans ce sens-là. Alors bien sûr, ça semble complètement fou, sauf que l'histoire est tragique. Elle accepte de faire un arrêt pour ravitaillement kérosène à Marseille-Marignane et elle accepte que tous les passagers à bord, dont Gérard Majax, soit débarqué en gardant simplement un steward et une hôtesse de l'air ainsi que le reste de l'équipage, sauf que vont intervenir des agents du GIPN qui ont reçu comme ordre de la neutraliser alors qu'elle n'incarne pas une véritable menace. Elle meurt de 3 balles une dans la tête, une dans le cœur et une autre, je ne sais pas où elle s'est logée. Elle est abattue à cet endroit-là, Danielle Craven. C'est une histoire qui a fait les gros titres des journaux, les gros titres des JT et qui ressort comme ça régulièrement. Eh bien, Jean-Philippe Daguerre sort un bouquin, La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob. Mmh. Et il va porter aussi Jean-Philippe Daguerre, qui est connu pour tous ses succès au théâtre, pour porter aussi cette histoire sur scène.
Je dis, ça ferait un bon film.
Ça peut faire absolument, voilà. Il y a le livre, il y a la pièce. Pourquoi pas le film qui reviendrait sur cet événement dramatique. On parle souvent de l'histoire de Rabbi Jacob, Reda. Reda,
oui, c'est vrai, on a déjà parlé ici, je crois, ensemble, mon père jouait dans Rabbi Jacob. Ouais, j'ignorais cette histoire.
C'est vrai?
Ouais, je connaissais pas du tout. Mais c'est fou quand même. C'est cette perte de la capacité à rire de soi. Parce qu'au final, on parle d'une comédie.
C'est ça. Qui a fait 7 millions. Enfin, qui a eu un carton. C'était un carton incroyable, en fait.
Il faut savoir que là, elle avait quand même quelques problèmes, cette dame, vu ses revendications.
Oui, absolument. Ce que raconte cette histoire, c'est quand même. Oui, c'est les problèmes de cette dame. Mais c'est, si on a envie de l'entendre aujourd'hui, c'est la perte d'une capacité à rire de soi, finalement.
Donc, je trouvais que c'était intéressant. De parler de cette Danielle Craven, s'est développée. Il y a plein d'articles qui la concernent où on apprend aussi qu'il était cette femme, qui était une femme par ailleurs aimante. C'est ce qui fait aussi.
Et c'est le même Georges Craven qui a fait les Césars ?
Exactement.
Ah, ok, d'accord.
À cette histoire.
Suite à cette histoire.
Tout est né.
Mais c'est intéressant. Le journal Libération va consacrer sa une à ce fait divers. Ça fait à peine 6 mois que Libé est né en 73, en fait. Et va raconter aussi un autre point de vue sur cette femme. En effet, complètement bouleversée et un peu folle d'une certaine façon, mais avec des revendications qui allaient vraiment dans une sorte d'une envie de fraternité. Donc c'est quelque chose. Et donc la mort, Georges Craven a engagé beaucoup d'avocats pour revenir sur les conditions de la mort de sa femme. Qui a été abattue alors que vraisemblablement avec cette carabine.
En parlant un tout petit peu calmement, on aurait pu la convaincre.
Sachant qu'elle avait accepté que tous les passagers, dont Gérard Majax, soient débarqués calmement. Voilà, c'était l'histoire du jour.
Belle histoire. Merci. L'affaire Bojarski, là aussi une histoire vraie, portée par Sarah Giraudot et Reda Kateb. Vous présenteriez le film, Sarah, en disant c'est l'histoire d'un artiste qui a besoin d'une reconnaissance et c'est un thriller ou plus proche de la réalité ?
Thriller, je le dis. Parce qu'effectivement, à chaque fois, ces formes-là où ça se resserre en étau, plus le film avance et ça se resserre en étau sur le héros, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement vivifiant, excitant. Mais oui, je dirais que c'est un artiste qui a fait du faux par défaut, je vais redire.
Et vous, Reda Kateb, vous présenteriez le film, ou vous l'avez déjà peut-être présenté en salle devant des spectateurs en disant quoi, histoire vraie et
c'est impressionnant, le parcours incroyable d'un inventeur de génie devenu faussaire et artiste.
Sarah, on vous retrouvera dans Derrière les palmiers, ça sera le 1er avril prochain que ça sortira, et vous êtes également dans Garance, le prochain film de Jeanne Herry. Mmh. Et quant à vous, Reda Kateb, vous serez au cinéma dans Jupiter, le tournage s'est terminé, sa première réalisation d'Alexandre Smia, c'est ça ?
Alexandre Smia, qui était dans les scénaristes du Bureau des légendes,
d'accord,
qui a réalisé son premier film.
Je ne sais pas si vous savez, tous les deux, au-delà d'avoir déjà joué ensemble, vous êtes marraine et parrain du Rire Médecin. Ça vous, oui, vous êtes au courant.
On se croise. C'est même comme ça qu'on s'est...
C'est vrai, rencontré. Et je rappelle donc pour 30 euros de dons, une visite d'un duo de clowns de la magie, de la fantaisie aux enfants hospitalisés. C'est par exemple le don que l'on peut faire facilement sur le site lerirmedecin.org. Des excuses, c'est la moindre des choses. Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, désolé pour les producteurs du film, les responsables marketing du film, qui ont été tous ces gens très étonnés par le fait que Reda Kateb balance la fin du film après 3 minutes d'émission. Ah, mais si ça vous emmerde une heure et demie de promo, Reda, dites-le. À 11h10, c'est bouclé et on va au bistrot, on va chez Leïla. Désolé pour nos auditeurs intègres qui ont découvert ce matin une bande de malfrats autour de cette table et que je triche sur ma carte d'identité, ma carte de scout, ma carte de séjour, ma carte de cantine. Nagui, tu passeras me voir et tu me fileras tes cartes bleues. Il faut que je vérifie un truc. Désolé enfin pour nos invités, nos auditeurs, les jeunes dans le studio, la direction de France Inter, le ministère de la Culture, car je pense que ce matin, il s'est passé quelque chose de grave, quelque chose de moche et tout ça. Tout ça, c'est ta faute, Old Olaf, vilain viking alcoolisé, souvenez-vous.
Bojarski chez Flunch.
Alors, Olivier, fini de déconner, on a besoin d'avoir une explication. Pourquoi est-ce que tu as été si loin? Alors, ok, on a eu Emma Beaujean avec Ponce-moi Emilien, mais là, Bojarski et Hutch, ça va trop loin. Tu en refais une comme ça, je te préviens. On te castre.
Merci Sarah Giraudeau, merci.
Merci.
Merci à vous.
Bravo pour l'affaire Bojarski au cinéma mercredi.